France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les SS sont l'incarnation vivante du nazisme. Ils ne sont pas simplement les exécutants d'ordre venant d'en haut. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont été sélectionnés spécifiquement pour leur sadisme, pour la jouissance potentielle qu'ils prendraient dans leur travail. Ces SS avaient souvent des antécédents judiciaires. Viols, assassinats, violences, bref, tout ce qui fait d'eux les candidats parfaits pour terrifier puis exterminer les déportés. Mais les SS sont aussi le produit d'un système d'endoctrinement bien réfléchi, visant à créer des geôliers, des soldats, des patriotes d'une haine si viscérale et si dépourvue d'humanité que seuls pouvaient faire fonctionner les camps de concentration. Selon Robert Merle, il y a néanmoins différentes catégories de SS. Il y a ceux qui deviennent SS suivant un parcours dit logique, c'est-à-dire qu'ils le font par amour de leur patrie, parce que c'est la façon ultime de se consacrer au Reich. C'est un haut fonctionnaire qui n'est pas là pour tuer ou torturer, mais pour poser sa pierre dans l'édifice de la construction nationale. Il y a ensuite une catégorie mineure, ceux qui font tout pour ne pas aller au front, dont la terreur de la mort les pousse parfois à avoir un modicum d'empathie pour les déportés. Et finalement, la catégorie majeure, ceux et celles qui laissent libre cours à leurs instincts psychopathiques, à la fois les instruments et les produits d'un système d'aliénation sans doute inédit dans l'histoire du monde moderne. C'est de ces mêmes SS que parle ce 19e de 27 épisodes de la série « Le monde concentrationnaire » de Francis Crémieux avec Pierre Dex, Marie-Elisa Nordman-Cohen, Marcel Paul, Lise Ricol, André Ullmann et André Verdet. Première diffusion le 20 mai 1965 sur France Culture.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire. La résistance française dans les camps de concentration allemands. Une émission de Francis Crémieux. Aujourd'hui, 20 ans après, les SS. Entretien avec Pierre Dex, Marie-Elisa Nordman-Cohen, Marcel Paul, Lise Ricol, André Ullmann et André Verdet.
De l'Allemagne, les concentrationnaires français ramènent d'abord l'image des SS. Il faut dire que même les concentrationnaires, qui étaient dans la pire des situations, ont pu faire une distinction entre cette caste sadique qu'étaient les SS et, par exemple, la Wehrmacht. Ce qui ne signifie pas que la Wehrmacht n'a pas été contaminée partiellement par les SS. Et puis les concentrationnaires français ont pu aussi faire un autre départ. Celui qui séparait les SS tortionnaires des Allemands patriotes et antifascistes emprisonnés dans les camps qui, eux, n'avaient pas tous été contaminés et qui, malgré les coups et la répression, avaient réussi à maintenir leur dignité d'homme. Il ne s'agit pas de confondre les SS et l'Allemagne. Il y a toujours deux nations dans n'importe quelle nation. Donc, essayons, en conclusion, de dire ce qu'étaient les SS. André Verdet, quelle est votre opinion sur les SS ?
Tout SS des camps de concentration était un sadique. Nous l'avons appris par la suite. Beaucoup d'officiers et de sous-officiers et puis de SS avaient des antécédents terribles. Obsédés sexuels, criminels sexuels, les pires voyous. Par exemple, un lieutenant SS à Buchenwald qui avait tué son père, sa mère et sa sœur dans une crise de démence, n'est-ce pas ? Soi-disant, c'est parce qu'il n'était pas nazi. Alors je pense véritablement que c'était par jouissance, par volupté du crime et de la mort.
Le témoignage d'André Verdet est net, rapide et brutal. Peut-être ne recouvre-t-il pas toute la question. Lise Ricol, que pensez-vous, vous, de la mentalité SS.
Je pense que c'est le résultat d'un dressage, d'une éducation, je pourrais dire, si je peux employer ce mot-là, d'éducation qui est bien mal placée, mais d'une éducation systématique de ces hommes, dont la plupart étaient très jeunes, dans la brutalité, dans le piétinement de tout ce qui fait les valeurs humaines, dans le non-respect de rien de ce qui est humain, ni du vieux, ni de la femme, ni de l'enfant. Et d'un autre côté, la volonté de nous humilier, de nous traiter comme des bêtes.
Et est-ce que c'est à cette volonté d'humiliation que vous réagissiez aussi en tenant de plus en plus ferme la résistance?
Absolument. Parce que nous considérions que si nous acceptions de nous laisser humilier, c'était la fin de nous-mêmes.
Je pense que tous les rescapés des camps de la mort font leur cette conclusion de Lise Ricol. Si nous acceptions, c'était la fin de nous-mêmes. Mais dans cette lutte contre la Schurme SS, il y avait non seulement un côté physique, mais il y avait aussi une sorte de démantèlement moral auquel il fallait résister. Il y a ce que certains écrivains et journalistes comme David Rousset ont appelé l'absurde. Je voudrais, Pierre Dex, connaître votre opinion sur cette question.
Vous comprenez, le problème de l'absurde, c'est un problème très curieux. Je veux dire, même si on essaie de se placer du point de vue de ce que le régime hitlérien pouvait espérer de camps d'extermination, on peut trouver quantité de détails absurdes, de bêtises, et il est tout à fait certain que nous avions dans l'encadrement SS du camp des gens qui étaient des fanatiques purs et simples, des mystiques du national-socialisme qui tuaient pour tuer, comme des fanatiques d'une secte religieuse peuvent tuer, vous comprenez. Et je ne dis pas ça du tout pour les excuser. Je parle ici comme quelqu'un qui a eu affaire à eux pendant tout de même 8-10 mois et qui a eu dans un certain nombre de circonstances à me demander si la chose que j'allais faire, le SS que j'avais en face de moi, me tuerait avant que je la fasse ou que je ne la fasse pas. Je veux dire, j'ai cette expérience que je savais parmi eux quels étaient les gens raisonnables, qui étaient aussi tueurs que les autres, mais qui enfin obéissaient, disons, à une logique que je pouvais comprendre, et ceux que je trouverais un jour déchaînés et fous de rage, sans du tout savoir pourquoi.
Vous avez l'impression qu'ils pensaient défendre leur patrie en tuant un ennemi, ou bien qu'il y avait aussi une part de perversion?
En 45, je vous aurais répondu différemment. Avec la lumière de la guerre d'Algérie, je vous réponds en mon âme et conscience, je ne sais pas quelle est la part d'entraînement de corps, de groupe, dans le comportement individuel des SS que nous avons vu. Je dis bien la part de corps. Les SS qu'il y avait dans le camp en 43-44 étaient des SS qui appartenaient à des unités données, très encadrées, enfin, tout à fait le genre unité d'élite, etc. Nous avions eu affaire à des gens qui avaient été dressés à croire qu'ils devaient nous liquider. Nous avions affaire à des gens qui, si étrange que cela puisse sembler, pour une grande part, croyaient à leur métier. Vraiment, bon, il faut rappeler les choses comme elles sont. Quand tout d'un coup, parce qu'au secrétariat du camp, on avait considéré qu'on pouvait sortir celui-là et le planquer quelque part, que j'allais chercher le gars et où je me disais, bon, mais si le SS comprend ou... Ouais, je ne faisais pas une chose illégale, je faisais une chose que tout d'un coup le SS pouvait très bien considérer comme illégale, s'apercevoir que, disons, j'allais chercher un Français.
Oui, alors en somme, vous démontrez par là que la résistance ne pouvait jamais jouer individuellement contre un SS.
Chaque fois qu'il y avait corps à corps, c'est très simple, en n'importe quelle circonstance, sans avoir de compte à rendre, le SS pouvait sortir son revolver et m'abattre.
Par contre, vis-à-vis des auxiliaires des SS, c'est-à-dire des capots de différentes nationalités...
Là, le rapport de force jouait. C'est-à-dire que, je m'explique, tout dépendait de la situation que l'on avait dans le camp, qui était affectée d'un double coefficient. D'abord un coefficient national, et ensuite la situation personnelle à l'intérieur du camp.
Il est évident que des possibilités de compromis et de discussion étaient plus nombreuses entre les capots et les détenus qu'entre les détenus et les SS. Mais la question se pose de savoir maintenant si les SS du sexe féminin ressemblaient en tout point à leurs congénères masculins, et si les réactions des Françaises déportées étaient celles des Français. Marie-Lisa Nordmann-Cohen, vous qui avez vécu pendant 2 ans à Birkenau et à Auschwitz, je voudrais vous demander ce que vous pensez des SS hommes et femmes.
J'ai beaucoup réfléchi et je dois dire que c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Je crois qu'il y avait plusieurs catégories dans ces hommes et ces femmes. Il y avait celle dont Robert Merle démontre parfaitement la logique, celle du commandant d'Auschwitz-Höss, que Robert Merle, dans « La mort est mon métier », montre depuis son enfance jusqu'à la fin de sa vie en prison. C'est-à-dire une sorte d'homme parfaitement logique, de héros pur allemand, qui croit vraiment à sa mission et qui obéit aux ordres supérieurs. Pour lui, sa mission qui lui avait été confiée par Himmler était l'extermination totale sans laisser de traces des Juifs, et il s'est consacré à cette tâche, mais tout en ayant une vie familiale normale, une femme qui habitait à Auschwitz près du camp et qui, jusqu'à au presque dernier mois, a ignoré tout de l'activité de son mari, des enfants, des réceptions entre SS, des concerts de musique, etc. Celui-là, ce n'était pas un SS qui battait, c'était indigne de sa conception de l'officier de battre et de torturer.
C'était le haut fonctionnaire.
C'était le haut fonctionnaire, le fonctionnaire qui admet ce genre de travail comme étant dans ses attributions et pour qui l'éthique nationale-socialiste était ce qui primait tout le reste. Et il y avait, d'autre part, ceux qui donnaient libre cours à tous leurs instincts réfrénés, qui étaient vraiment des sadiques. Et nous en avions connu aussi bien dans l'administration SS que dans l'administration du camp par les capots recrutés dans les triangles verts et dans les triangles noirs. C'étaient des gens qui avaient un plaisir sadique à battre, à martyriser, à tuer, qui en éprouvaient un sentiment. Alors, il y avait aussi une autre catégorie, qui était une catégorie qui essayait de s'en sortir par tous les moyens. Par exemple, le commandant du petit camp où j'ai été affectée aux environs de Birkenau, qui était ce camp de jardinage et qui cherchait au fond à sauver sa peau, qui essayait de ne pas partir sur le front de l'Est en organisant la culture d'un pissenlit à caoutchouc, en montrant ses réalisations. Et évidemment, il pensait qu'il valait mieux avoir un bon rendement et pour ça ne pas martyriser les prisonniers et les prisonnières, et leur donner plutôt une meilleure nourriture.
André Ullmann, il est clair que les SS étaient des sadiques. Les SS étaient des tueurs, les SS étaient des bourreaux. Les SS étaient des hommes pervertis. À toute heure du jour, ils pouvaient tuer et ils ne se sont jamais lassés. J'aimerais avoir votre opinion, vous, homme de Mauthausen et de Melk, sur les SS.
Le SS, ce pouvait être tout cela. Tout ce que vous venez de dire, ça pouvait être un SS. Ça pouvait être aussi autre chose. L'Obersturmführer Ludolf, par exemple, avait été un chauffeur de taxi à Hambourg. Et c'était un homme auquel le système avait donné un pouvoir exorbitant. Et un pouvoir tel, le pouvoir de vie ou de mort, le pouvoir de décision sur des milliers d'hommes, qu'il a été en quelque sorte aliéné par ce pouvoir qui lui était donné. Le SS, pour moi, et quel que soit ce qu'il représentait individuellement et personnellement, c'est le phénomène d'aliénation par un système, vous direz si vous voulez par une idéologie, par des intérêts, par tout ce que vous voudrez, mais c'est en tout cas le phénomène d'aliénation par un certain monde le plus extraordinaire, le plus profond que j'ai vu. Je ne sais pas si ça constitue une réponse à votre question, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre le phénomène SS et ce qu'étaient ces hommes que nous avons vus, contre lesquels nous nous sommes battus avec les moyens les plus divers, si, à la base, on ne comprend pas qu'ils étaient aliénés et par quoi ils étaient aliénés.
Oui, mais est-ce que le SS est un produit de dressage allemand? Et est-ce que vous pensez que l'on peut avoir un équivalent dans d'autres pays? Comment se fait-il que dans l'Europe du XXe siècle, ce ne soit qu'en Allemagne, sous l'idéologie nationale-socialiste, qu'on ait trouvé la masse SS?
Parce que le système était étendu à toute l'Allemagne à ce moment-là. Je crois que ça tient à des circonstances historiques qui ont été favorisées par la longue habitude de discipline et d'exaltation par les responsabilités données par le système bismarckien, par le système prussien. C'est pas parce que j'ai parlé d'aliénation que c'est un phénomène aberrant. Je crois simplement que l'Allemagne était préparée par son histoire à accepter plus facilement ce système et que ce système, en se développant, a peu à peu aliéné les Allemands.
Pour conclure cette dernière émission, je voudrais demander à Monsieur Marcel Paul, qui fut l'un des organisateurs de la résistance et du redressement français à Buchenwald, de me dire son opinion sur les SS.
Les SS n'ont pas été une création spontanée. Il s'agissait de l'outillage, de choc, d'un mécanisme de domination. Domination pour des objectifs économiques et politiques. Considérant que l'un de ces moyens était effectivement la terreur. Cet outillage de choc dans ce domaine a joué un rôle effectif, un rôle considérable. Les SS, unités combattantes, disait-on, de premier plan, ont été appelées à assumer des tâches qui n'étaient pas des tâches combattantes, qui ne relevaient pas du sens de l'honneur. Martyriser, torturer des déportés désarmés, les assassiner, les massacrer à coups de gommi ou à coups de botte, c'est pas une tâche de combattant. Ces SS ont assuré ces tâches car ils étaient convaincus qu'ils servaient le Grand Reich, que l'extermination des races dites inférieures ou l'extermination d'ennemis est considéré comme ennemi résolu, que cette extermination était une condition de la victoire du Grand Reich. Il y avait là, dans ces SS, effectivement des combattants qui avaient été retirés du front pour blessure, d'autres hommes qui avaient une très grande peur d'aller au front et qui pensaient conserver leur situation à l'arrière en manifestant peut-être un zèle particulier, s'il est possible de dire qu'il y avait zèle particulier. Ce qui se passe dans la tête des hommes devient un peu secondaire lorsque il faut essayer de comprendre l'histoire pour en empêcher la répétition. Les SS ont été fabriqués avec un objectif déterminé. Quant à la complexité de ce qui pouvait se passer dans la tête de ces SS, je répéterai une image que j'ai déjà, je crois, avancée. Ce jeune SS qui assurait avec d'autres la garde d'un commando travaillant dans une tourbière fin mars, et la glace avait cédé là où un de nos compatriotes s'était avancé pour dégager un lieu où la tourbe devait être attaquée. Ce malheureux qui était déjà âgé avait glissé et était passé sous la glace. Il y a eu une seconde d'hésitation, et tous ses camarades allaient se précipiter. C'était pas un petit problème pour des hommes qui n'étaient plus que des squelettes et n'avaient rien dans le ventre que de se jeter dans l'eau glacée. Et c'est ce jeune SS que nous connaissions pour sa brutalité qui s'est avancé, qui a enlevé sa capote et s'est jeté, repêché, se déporter sous la glace. Et il a emmené notre camarade dans le espèce de guérite où les SS étaient rassemblés au chaud pendant que les prisonniers travaillaient dans des conditions infernales au froid. Il a laissé ce prisonnier une grande partie de la journée aux côtés du poêle pour qu'il sèche ses vêtements. Mais notre malheureux camarade s'était tordu le pied. Il avait le pied enflé et pour le retour au camp, il n'avait pas la possibilité de marcher. Ses camarades l'avaient supporté longtemps et puis, à un moment, il est tombé. Le même SS, pas un autre, le même SS, s'est précipité son revolver à la main et l'a exécuté suivant la règle de tout homme qui tombe doit être abattu sur place. Il y a eu un appel à la réflexion, il y a eu un bouleversement dans l'âme de ce petit commando de prisonniers infernal. Comment cet homme qui, le matin, ce gamin de 18 ans, avait sauvé un prisonnier qui aurait pu être son grand-père, comment lui était-il possible de l'abattre froidement, ce même homme, quelques heures plus tard, sur le chemin du retour au camp?
Et quelle explication vous donnez?
Comment définir? Il s'agit d'un problème de psychologie humaine qui a été considéré par certains des prisonniers comme une caractéristique particulièrement germanique. Mais je pense que le problème ne doit pas être abordé ainsi. Il est possible de faire, malheureusement possible de faire des SS, lorsqu'un régime repose sur la violence, sur l'utilisation de la terreur, on aboutit à faire des monstres avec des êtres humains qui auraient pu rester des hommes.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'une des explications du geste de ce jeune SS de 18 ans dont vous nous parliez, c'est précisément qu'il n'était pas encore complètement formé et qu'il avait fait une faute en sauvant un prisonnier et qu'il a peut-être voulu racheter aux yeux de ses supérieurs cette faute?
Comment expliquer? Mais enfin, les camarades du commando n'avaient pas eu l'impression que les autres SS aient reproché à leurs camarades ce geste de sauvetage le matin. Et ils ont assisté aussi tranquillement à l'exécution du prisonnier après. Mais c'est donc pas un problème de sentiment, d'appréciation après coup, se plaçant sur le plan d'une individualité, c'était là un collectif. Ces mêmes hommes qui se retrouvaient dans leur famille, puisque les SS qui étaient à poste fixe dans les camps, qui occupaient des fonctions responsables, avaient leur famille dans les villas environnantes du camp, qui se retrouvaient avec leurs petites filles ou leurs petits garçons chez eux et les entouraient de tendresse.
Pas d'explication, selon vous. L'homme double.
L'homme double, la machinerie, la nocivité, la terrible nocivité, le danger terrible de la machinerie hitlérienne. C'est pourquoi la reconstitution ces groupes fascistes en Allemagne, leur activité doit être considérée comme un danger considérable, un danger terrible. Il sera possible, il est possible de refaire des SS. Les premiers bataillons peuvent se retrouver déjà reconstitués en Allemagne.
Ainsi s'achève cette série d'émissions consacrées par Francis Crémieux à la résistance française dans les camps de concentration allemands. Assistant, Gilbert Maurice Duprez.
C'était 20 ans après les SS, le 19e de 27 épisodes de la série Le Monde Concentrationnaire, avec Pierre Dex, Marie-Elisa Nordman-Cohen, Marcel Paul, Lise Ricol, André Ullmann et André Verdet. Première diffusion le 20 mai 1965 sur France Culture. À suivre.